Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Napoléon a marqué l'histoire de la France en mettant en place un empire redouté dans toute l'Europe. Pourtant, il est difficile pour le public de comprendre comment cet empire a pu se construire après la Révolution de 1789. Un modèle qui semblait pouvoir pousser la démocratie de façon plus pérenne. Je vous propose de découvrir un extrait de mon entretien avec Aurélien Lignereux, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la période napoléonienne et notamment des forces de l'ordre sous l'empire. Retrouvez très bientôt l'entretien intégral sur mon podcast Nota Bene. Bonne écoute à tous.
Alors, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu mieux connaître le début de la Révolution que, enfin pour le grand public, je parle, que la fin, qui reste quand même globalement un petit peu flou. Alors, comment est-ce qu'on passe de la Révolution finalement à l'Empire et comment émerge cette figure de Napoléon ? Et j'ai envie de te dire, allez, 20 minutes.
Non, mais c'est une question superbe. Hein. Alors, en effet, ce qui réunit les Français en 1795, c'est la volonté de finir la Révolution. Le problème, c'est que ce qui oppose le plus les Français en 1795, c'est la manière d'y parvenir. Hein. Comment finir la Révolution ? Tout le monde est d'accord, il faut en finir, mais ce qui prolonge la Révolution, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la manière. Alors, à mon sens, il y a une série d'étapes qui sont autant de portes qui se sont fermées les unes après les autres, et c'est ce resserrement en fait des possibilités qui va faciliter la tâche de Bonaparte. Alors d'abord, il y a le 9 Thermidor, donc la chute de Robespierre, hein, fin juillet 1794, si vous préférez parler en calendrier grégorien. Ce 9 Thermidor, alors bien sûr, il y a eu des manipulations, mais grosso modo, on a convaincu la population qu'elle avait, qu'avec le 9 Thermidor, ça a été fini de la terreur. Hein. Mais c'est surtout, en fait, le 9 Thermidor, c'est quoi ? C'est la fin d'une conception terriblement exigeante de construire la République sur la vertu civique, de révolutionner la vie collective. Avec la chute de Robespierre, cette conception très exigeante, très participative, s'achève. Ensuite, deuxième fermeture, il y a eu le printemps 1795. C'est la défaite des sans-culottes et les femmes du peuple. Alors, le peuple hein, s'était mobilisé contre la convention thermidorienne, c'est-à-dire ceux qui avaient renversé Robespierre, dans un contexte de pauvreté et de vie chère. Ça avait entraîné un soulèvement, l'invasion de l'Assemblée, mais qui avait été durement réprimé. Et l'échec du printemps 1795, ça signe la fin des journées révolutionnaires. Il n'y aura plus de prise de la Bastille, il n'y aura plus de prise des Tuileries. C'est-à-dire, c'est la fin du peuple comme acteur direct du changement politique. Hein. Les gens restent chez eux. La rue est maîtrisée. Troisième fermeture, c'est en fait les victoires des armées républicaines. Donc, à l'extérieur, dès 1794, avec la victoire de Fleurus, mais aussi à l'intérieur, avec l'écrasement des royalistes à Quiberon, donc en Bretagne, en juillet 1795. Pourquoi c'est important ? Ça marque la fin des espoirs des royalistes d'en finir avec la Révolution. Bref, de sortir de la Révolution par la contre-révolution. Et même les souverains d'Europe, par exemple le roi de Prusse, comprennent qu'il va falloir s'accommoder avec la République française. Une quatrième porte qui se ferme, c'est le coup d'État du 18 Fructidor en 5. C'est pas celui de Bonaparte, hein, le Fructidor en 5, c'est le 4 septembre 1797. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont les républicains qui sont aux commandes du directoire, qui invalident brutalement le résultat des élections, parce que ces élections donnaient la victoire légale aux royalistes modérés. Avec ce coup de force, et il y en aura d'autres qui suivront, prend fin l'idée que la Révolution pourrait finir d'elle-même, grâce à la pratique routinière des élections, grâce à l'alternance. Alors, en tout cas, une chose est sûre, on comprend que le pouvoir militaire, que la force militaire, sera l'acteur moteur de la fin de la Révolution, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a bien sûr le coup d'État des 18 et 19 Brumaire, lorsque Bonaparte, qui s'est allié avec d'autres acteurs politiques, met fin au directoire qui est caricaturé alors hein, par Bonaparte comme un régime d'impuissance, un régime corrompu, d'injustice. Qu'est-ce que ça marque là ? Ben, ça marque le début de la fin de la politique. Parce que fait Bonaparte ? Que fait son nouveau régime, le consulat ? C'est un régime qui reste républicain, mais c'est un régime qui entreprend de dépolitiser le pays. Après 10 ans de révolution, dépolitiser le pays pour le pacifier, pour le sortir des troubles civils. Encore une avant-dernière étape, c'est l'année 1802, c'est celle d'un grand tournant. Bonaparte a toutes les cartes en main. Il a mis fin à la guerre civile en France. Il n'y a plus la guerre dans l'Ouest, hein, il est chaud en sang maté, soumis. Il a obtenu la paix avec l'Europe grâce à sa victoire à Marengo. Les Anglais eux-mêmes signent la paix à Amiens. Napoléon a obtenu la paix avec l'Église catholique, avec le pape, par la signature du Concordat. Bonaparte est au zénith de sa popularité et s'en trouve récompensé par le titre de consul à vie. Et puis ensuite, hein, c'est l'établissement de l'Empire. Peut-être quelques mots encore, si tu me le permets. Si l'on se place cette fois, non plus du côté des événements en général, mais du point de vue de Bonaparte, il y a une chronologie personnelle à dresser en parallèle. Alors, tout le monde connaît plus ou moins les principales étapes. Le siège de Toulon contre les Anglais en 1793, la répression du coup de force royaliste par Bonaparte à Paris le 13 Vendémiaire en 4, hein, la campagne d'Italie, bien sûr, la campagne d'Égypte et le retour en France. Mais ce qui compte, c'est la façon dont le jeune Bonaparte a vécu sa propre ascension. C'est-à-dire, pour lui, les étapes qu'il franchit successivement sont un tremplin pour aller, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Ce qui est fascinant de comprendre et de voir, c'est que le général Bonaparte, le jeune Bonaparte, a pris très vite conscience de ses aptitudes exceptionnelles, sur le plan stratégique, bien sûr. Mais je crois que sur le plan politique, l'épisode après lequel rien ne sera plus jamais pareil pour lui, où Bonaparte ne voudra plus faire machine arrière, c'est son séjour à Mombello. C'est quoi Mombello, tu vas me dire, hein, c'est un palais baroque près de Milan, où de longs mois durant, en 1797, le général Bonaparte a dirigé en véritable chef d'État, en chef de la diplomatie, des conquêtes qu'il venait faire en Italie. Il a toute une petite cour qui gravite autour de lui en 1797. C'est le tournant décisif, à mon avis, dans la maturation de son pouvoir personnel. Et puis, on peut ajouter un second tournant pour finir. C'est la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte a été terrible. Toutes les épreuves qu'a souffert le corps expéditionnaire français, eh bien, ces épreuves ont comme brûlé le cœur de Bonaparte, qui a dû prendre des décisions terribles. Terrifiante pour le salut de sa troupe. Il s'est forgé dans l'adversité. Il s'est en quelque sorte affranchi des lois communes. Hein, il est devenu un homme à part en quelque sorte.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.